presse. On va aller voir un peu ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a plein de choses. Ça brasse. Oui, on a des nouvelles de Donald Trump pour ceux qui s'en ennuient, mais il y a ce qui se passe du côté de New York et sans oublier aussi la rencontre bilatérale virtuelle entre Joe Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau qui a lieu aujourd'hui. Donc, ça nous touche directement. Évidemment, on va discuter de ça avec notre ami Raphaël Jacob, Jacob de la chaire Raoul d'Endurant. Salut, Raphaël.
Salut, monsieur.
Commençons par où on s'est laissé hier la semaine dernière, parce qu'il y a bien des gens qui disent « Hey, on veut savoir c'est quoi la suite avec Andrew Cuomo, le gouverneur de New York. » Donc, peut-être juste nous rappeler ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire Andrew Cuomo qui était vu comme étant la vedette démocrate de la gestion de la pandémie, surtout lorsqu'on le comparait à Donald Trump, et ce qu'on pourrait carrément qualifier de déchéance, ce qui se passe ces jours-ci avec Andrew Cuomo.
Au minimum. Déchéance, c'est presque poli. Il y en a plusieurs qui t'évoqueraient carrément criminel, parce que le FBI a maintenant les deux mains là-dedans. Donc, peut-être récapituler vite, effectivement, ce dont on s'était parlé vendredi. Dans l'État de New York, au mois de mars, on impose un confinement très strict après qu'on ait dit qu'il allait pas en avoir un. On impose plusieurs restrictions. Le gouverneur Cuomo est très, très, très agressif, ou est vu comme étant très agressif dans la lutte à la COVID-19, demande des dizaines de milliers de respirateurs artificiels au gouvernement fédéral. Et dans tout ça, malgré tout ça, l'État de New York devient le pire endroit, la pire juridiction en termes de mortalité en proportion à la population de tout le continent. En fait, à un certain moment, là, c'était le pire endroit au monde, carrément. Et pourtant, la couverture médiatique a continué à être extrêmement positive. Et on le présentait soit au minimum comme une vedette actuelle et ou potentiellement plus tard comme un candidat présidentiel ou présidentiable là, du côté démocrate en devenir. Et tout ça, ça a mis la table, en fait, pour, tu utilises le mot déchéance, pour la déchéance qu'on voit présentement. Parce que, au gré du temps, on a commencé à découvrir certaines choses. Notamment le fait que, au-delà du taux de mortalité extrêmement élevé, là, de façon globale, il y avait eu quelque chose de carrément scandaleux qui s'était passé dans les foyers de personnes âgées de l'État de New York. Et ça, c'était directement causé parce que le gouverneur Cuomo avait ordonné. Pourquoi? Ben parce que au mois de mars, donc au tout début de la pandémie, il avait ordonné aux foyers de personnes âgées de son État d'accepter des patients infectés. Et il aurait même interdit, dans certains cas, de les faire tester à nouveau. Et ça, on se parle d'hécatombe, là, ça crée un hécatombe. Potentiellement des milliers de morts qui ont été causées directement à cause de cette décision-là. Et une fois que la décision a été découverte là, par les médias, par le grand public, on l'a effacée du site web de l'État de New York, comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, c'était presque un préambule, parce que ce qu'on a également appris dans les dernières semaines, c'est que non seulement les données officielles étaient complètement fausse, et ça, c'est pas des adversaires politiques, là, républicains de Cuomo qui ont dit ça. C'était le bureau de la procureure générale, l'équivalent de la ministre de la Justice de l'État de New York, qui est sorti il y a quelques semaines en disant les chiffres marchent pas, là. Le taux de mortalité dans les foyers de personnes âgées est au moins le double de ce qui a été rapporté officiellement par le gouvernement de M. Cuomo. Et donc, ça sentait déjà très mauvais jusqu'à ce que, coup de tonnerre, il y a quelques jours, une des ex-employés de Cuomo sort publiquement en disant « on the record » en bon français, c'est pas juste que les données étaient fausses ou étaient inexactes, c'est qu'elles ont été délibérément falsifiées pour cacher ce qui avait été fait.
Bon, c'est ça. Et pendant ce temps-là, lui, il faisait la morale à Trump.
Aussi. C'est ça.
On le voyait dans les médias, il était à CNN, il était partout, puis il faisait la morale au président là-dessus. Là,
exactement. Et non seulement ça, Jérôme, mais pendant ce temps-là, doit-on le rappeler, je sais que je l'ai mentionné à l'émission vendredi, mais là, je me permets de le rementionner aujourd'hui. Non seulement il faisait la morale à tout le monde, il est allé publier un livre excessivement moralisateur qui s'appelait « Le leadership en temps de crise pour gérer la COVID-19 » avec sa face, sa couverture. Et doit-on le rappeler, il acceptait un Emmy Award, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine. Pourquoi? À cause de ses conférences de presse quotidiennes sur la COVID-19. Fait que, tu sais, le gouffre entre ce qui était présenté, ce qui était perçu, et la réalité de ce qui se passait dans les faits. Honnêtement, là, je sais qu'on a vécu 4 années complètement folles et souvent complètement scandaleuses avec Donald Trump à la présidence. Si on enlève Trump, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose comme ça. Un scandale aussi grave que ça, et surtout un tel décalage entre justement le scandale et la perception publique qu'il y avait pendant très longtemps. Puis je vous rajoute ceci également, parce que ça aussi, c'est sorti dernièrement. Ce, apparemment, ce sur quoi on enquête, entre autres, c'est pas juste le fait qu'on a falsifié donc des données officielles, ce qui, doit-on le rappeler, est un crime, c'est qu'on aurait donné, on a en fait donné une protection légale aux dirigeants des hôpitaux et de foyers de personnes âgées. Le gouverneur a donné l'ordre, essentiellement, de les protéger d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique. Et c'est quoi qui est scandaleux là-dedans, ben que ces mêmes associations-là auraient contribué à peu près 2 millions de dollars à la cagnotte électorale de M. Cuomo. Et que ça pue, ça pue, ça n'a aucun sens comme affaire.
Raphaël, je veux absolument qu'on aborde un aspect, avant de passer à un autre sujet, mais un aspect de cette histoire-là qui peut paraître peut-être futile, mais qui, à mon sens, est ultra important. Mm-hmm. Et c'est le rôle de CNN et de son frère Chris Cuomo, qui est une vedette de CNN là-dedans. On se souvient des entrevues dans la première vague où il y avait une complicité entre les deux frères, puis c'était il y avait quelque chose de sympathique et tout ça. Comment CNN gère l'affaire et comment Chris Cuomo gère l'embarras de son frère en ce moment?
C'est tout ce qui est très comme, puis je dis comique en même temps, ça a aucun sens là. Ce qui est presque comique, tellement c'est absurde, c'est que la semaine dernière, quand le pire du scandale a vraiment éclaté, là, dans le show de Chris Cuomo, le mot Cuomo a été prononcé, sais-tu combien de fois? Une. Et sais-tu quand? Au début de l'émission, quand Chris Cuomo s'est présenté en disant « Je m'appelle Chris Cuomo ». That's it, that's all. Et CNN a réinstauré une politique apparemment qui existait avant la pandémie, qui disait que Chris Cuomo n'avait pas le droit de traiter de son frère comme sujet dans son émission. Ah, c'est drôle, cette règle-là a été suspendue sans aucune espèce d'explication pendant des semaines et des mois au printemps dernier. Puis tu sais, tu parles de complicité, c'était plus que de la complicité, c'était de la complaisance. C'était presque de la propagande, en fait. Il lui avait donné un surnom, il l'appelait le Love Gov, le gouverneur de l'amour. Ça avait aucun sens à ce moment-là. C'était indéfendable au printemps dernier. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Fait que c'est et doit-on l'appeler pour la petite histoire, là, on se parle beaucoup d'Andrew Cuomo. Je me permets d'ajouter aussi ceci sur son frère, là, sur Chris, l'animateur de CNN. Pendant la première vague, Chris Cuomo a menti aux téléspectateurs à plusieurs reprises, incluant sur sa propre quarantaine, parce que lui avait été infecté.
C'est vrai, il était positif, lui.
Il était positif, ouais. Et il a menti carrément à la télévision, en faisant croire qu'il s'était mis en quarantaine, qu'il avait jamais violé sa quarantaine et que le moment qu'il avait sorti de son sous-sol, là, après quoi, 14 ou 15 jours, peu importe, c'était la première fois qu'il sortait. Ce qui était dans les faits complètement faux. Non seulement il était déjà sorti, il était déjà sorti sur la place publique alors qu'il était infecté, qu'il était censé être en quarantaine. Fait que tu sais, tu te dis, d'un côté, t'as ce gouverneur-là qui demeure encore aujourd'hui en fonction alors qu'il a, puis je vais être très prudent, potentiellement commis un ou des crimes. Et t'as son frère qui demeure à la tête d'une des émissions les plus importantes d'un réseau câblé, d'un des réseaux câblés les plus importants aux États-Unis, malgré sa couverture de cet événement absolument tragique-là. Il y a des choses là, qui, je pense, méritent d'être mises en question. On peut critiquer, encore une fois, Trump et tout ce qui a été fait à l'ère de Trump. En même temps, c'était pas le seul acteur, disons, par rapport auquel il y a des questions très, très légitimes qui se posent. Puis, je finis avec ceci là pour le point sur les Cuomo, là. Quand Donald Trump a eu, disons, des écarts de conduite, puis aussi, je le dis de façon très, très conservatrice, là, souvent, ce qu'on demandait comme question, c'est, en démocratie, n'est-il pas vrai que tout le monde est censé être égal devant la loi? Autrement dit, si quelqu'un fait de normal, entre guillemets, un citoyen normal, faisait ce que Trump avait fait ou avait dit, n'y aurait-il pas des conséquences légales? Et c'est une question qui était parfaitement légitime. Je vous soumettrais que le même genre de question devrait se poser par rapport à ces deux bonhommes-là, à ces deux frères-là. Parce que dans les deux cas, je m'excuse, ils se font traiter comme à peu près aucun citoyen ordinaire se ferait traiter. Si c'est pas un traitement de faveur, je sais pas c'est quoi.
OK, qu'est-ce qui se passe avec Trump pendant ce temps-là, Raph? Est-ce qu'il est encore un peu l'autorité morale des républicains? C'est sûr que nous autres, le public, on a moins de nouvelles de lui, il est plus sur Twitter. Est-ce qu'il va se transformer en kingmaker? Est-ce qu'il va être le candidat?
Il va se représenter, pareil. Là.
Est-ce qu'il se représente? Qu'est-ce qui se passe avec Donald pendant ce temps-là?
Ben, premièrement, pour ce qui est de l'autorité morale, je pense qu'on peut évacuer ça tout de suite. Je peux pas dire que c'est une autorité morale. Est-ce que c'est une autorité politique, par contre? Ça, c'est ce qu'il vise, très clairement. Puis, tu sais, tu disais, on n'entend plus parler. Je te dirais que c'est sans doute une question de temps. Puis par temps, je ne veux pas dire quelques années, je veux dire en fait quelques jours. Pourquoi? Parce que cette semaine, à la fin de la semaine, il est censé donner son premier, en guillemets, le grand discours comme ex-président. Et c'est pas n'importe où, et c'est pas n'importe quel genre de discours. Il doit s'adresser à CPAC. C'est quoi CPAC? C'est...
Et là, on parle pas du canal de la Chambre des communes à Ottawa, là. Ils appellent CPAC. C'est pas la même affaire, là.
Non, c'est avec tout le respect pour notre chaîne CPAC, c'est un petit peu plus regardé, le CPAC en question du côté américain. C'est la grand-messe, on veut, du mouvement conservateur de la droite américaine. Trump s'y est adressé, d'ailleurs, à toutes ses années à la Maison-Blanche. Pendant les 4 ans où il était président, il s'adressait à ces conférences-là. Et là, écoutez, ça fait quoi? À peine un mois qu'il a quitté la Maison-Blanche, qu'il a quitté ses fonctions. Et il veut revenir à l'avant-scène, veut servir de cette très grosse tribune-là, pas juste pour prendre la parole, mais de ce qu'on en comprend pour essayer de se positionner comme à la fois une espèce de critique en chef là, de Joe Biden, une espèce de chef de l'opposition, si on veut, et également, un petit peu, je reprends ton exemple, là, Jérôme, le kingmaker du Parti républicain. Puis là, avant même qu'on se parle de 2024, je sais que ça peut avoir l'air d'être très loin pour bien du monde, parlons-nous simplement de 2022.
Ça, midterms.
C'est bientôt. Ouais, les midterms, les élections pardon, de mi-mandat, ça s'en vient l'an prochain. C'est très rapide. Et de ce qu'on en comprend, ce que Trump veut faire, c'est essentiellement, puis là, c'est aussi, je le mets en guillemets, là, mais épurer, purifier le Parti républicain pour qu'il soit le plus possible à son image à lui. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire qu'il serait en train, par exemple, d'essayer de trouver, de mousser des candidatures de républicains. Pourquoi? Pour s'en prendre à des républicains sortants, à des élus républicains qui ont osé le défier. Donc, par exemple, des sénateurs, des représentants qui ont voté pour son impeachment, qui l'ont critiqué sur la place publique, Trump essaierait de les faire battre par des nouveaux candidats républicains. Fait qu'au minimum, ça serait pour essayer de rester carrément dominant dans ce parti-là, potentiellement même voir mettre la table, évidemment, pour son propre retour en 2024, pas plus tard que ce matin, une des journalistes les plus estimés du New York Times disait que dans l'entourage de Trump, incluant Trump lui-même, on parle déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de 2024.
OK, puis un mot sur ses impôts, parce que je veux qu'on se garde de quelques minutes pour parler de la rencontre Biden-Trudeau, mais un mot sur ses impôts, c'est un jugement important qui a été rendu. Hein?
Potentiellement, dans la mesure où la Cour suprême, de façon unanime, doit-on le rappeler, là, c'est quand même une Cour de 9 juges. Sur les 9, il y en a 3 qui ont été nommés par Trump, et les 9 ont voté pour essentiellement forcer l'ex-président à soumettre ses déclarations d'impôts aux enquêteurs de l'État de New York. Ça, c'est important, potentiellement, encore une fois, parce que c'est pas n'importe quelle enquête. C'est une enquête de nature criminelle. Et là aussi, il faut être super prudent. Mais disons qu'il y a de la fumée. Peut-être qu'il n'y a pas de feu, mais il y a l'air d'avoir de la fumée dans le contexte de cette enquête-là. Donc, on verra. Mais je vous dirais qu'au final, la seule chose, à part sa santé personnelle, là, qui pourrait peut-être vraiment arrêter Donald Trump comme force dominante au sein du Parti républicain, c'est carrément d'être arrêté, là. Je veux dire, d'avoir des accusations formelles qui sont lancées contre lui, parce que tant que ça arrivera pas, écoutez, encore sondage incroyable du USA Today publié en fin de semaine qui montre que on demande aux électeurs de Trump, puis doit-on le rappeler, il y en a plus de 70 millions là, des électeurs de Trump, il y a à peine mois, au mois de novembre dernier, on leur demande, si Trump quitte le Parti républicain, lance son propre parti, qu'est-ce que vous faites? La très, très nette pluralité, presque 50% des répondants disent on abandonne le Parti républicain, on suit Trump à peu près, peu importe où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il fait. Autrement dit, ce type-là, même après tout ce qui s'est passé, même après le 6 janvier, même après son procès en impeachment, et surtout même après avoir quitté ses fonctions présidentielles, demeure et de loin la figure la plus importante et la plus puissante de ce parti-là. Fait que pour tous ceux et celles qui se disaient il s'en va au soleil couchant, puis c'est fini, on n'entendra plus parler, il s'arrange pour que ça soit complètement le contraire.
OK, il nous reste une minute, Raphaël, mais on a le temps de parler un peu de la rencontre Biden-Trudeau. On s'attend à quoi de ça? Puis évidemment, il y a plus d'atomes crochus entre Biden et Trudeau qu'entre Trudeau et Trump, évidemment.
C'est vrai. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que le premier ministre Trudeau va arriver avec beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes de choses, soit qui fonctionnent pas super bien, par exemple la vaccination au Canada. Donc, on veut demander aux Américains d'aider. On verra ce que ça donnera.
Ça, c'est intéressant.
Mais aussi, Oui, exact. Et également, faire demander à changer certaines des décisions qui ont déjà été rendues par l'administration américaine, la nouvelle administration de M. Biden. On parle de quoi? Ben, des fameuses clauses protectionnistes Buy American, de la décision sur Keystone XL. Et je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, fait que rapidement, finir sur ceci, la question des deux Michael, les fameux deux Michael, les deux prisonniers politiques en Chine depuis maintenant à peu près 2 ans. On veut que les États-Unis aident. Or, le Wall Street Journal rapportait il y a à peine quelques jours que, apparemment, là, l'administration américaine avait essentiellement tout abandonné pour ce qui est d'efforts pour les faire libérer. Fait que ça risque aussi d'être une demande du premier ministre. On verra ce qu'il y aura comme, comme réaction. Mais tu as raison de préciser que, d'emblée, le courant devrait quand même passer pas mal mieux qu'avec le prédécesseur de M. Biden.
On aura l'occasion de s'en reparler prochainement, assurément, Raphaël. Merci beaucoup.
Bye-bye.
Salut.
Raphaël Jacob de la chaire Raoul Dandurand. Décidément, Donald Trump qui n'a pas fini de faire parler de lui. Mais tu sais, s'il parle son propre parti, là, et que le pourcentage dont Raphaël parlait de ses fans le suivent, c'est les démocrates qui seraient morts de rire. Là. Tu sais, tu viens diviser le vote républicain.
Ben, c'est sûr.
Tu t'assures un passage pour être réélu.
Ben, ben, c'est pas vrai que le Parti républicain ne survivra pas à Trump non plus. Tu sais, il a beau créer son parti. Il y a encore de la vie là, au Parti républicain. Là. Le Parti républicain ne disparaîtra pas. Fait que c'est garantir l'élection des démocrates là, s'il fait ça. Là.
Exact. Il est 11h20, vous écoutez Trudeau Landry. On s'arrête, on revient.
Trudeau Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. On prend une petite pause. On revient.